Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs. Plusieurs milliers de Congolais ont été expulsés d'Angola ces derniers jours par la frontière de Kamako au Kasaï. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entre le 1er et le 6 octobre, plus de 52 600 Congolais sont arrivés à Kamako où ils vivent dans des conditions difficiles. Plusieurs témoignages font état des violences subies sur les sols angolais par les Congolais expulsés. Ces expulsions interviennent après que des milliers de Congolais fuyant des violences au Kasaï avaient trouvé refuge en Angola. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-4969-09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. J.R. Lungembo, Jean-Claude Siala concourt à la production de ce magazine que vous présente Pierrot et la Meiji sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Rappelons que depuis l'année passée, des milliers de Congolais s'étaient réfugiés en Angola fuyant des violences dans les régions du Kasaï avec la milice Kamuina Nsapu. Et plus tard, qu'il y a ce mois d'octobre, plusieurs milliers d'autres ont été expulsés de l'Angola. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Mais rappelons aussi qu'en réaction, le gouvernement congolais donne un ultimatum de 2 mois aux ressortissants étrangers en situation irrégulière pour quitter la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Agé Matembo. C'était le mardi dernier, c'est une décision prise sur base du principe des réciprocités entre États. Comment commentez-vous cette situation? Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook de Parole aux auditeurs, mais aussi en direct. Singhi Pouloulou, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour. Singhi Pouloulou, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Vous savez... ce que je veux dire, le peuple congolais, dans sa culture, il n'a pas la culture des pièces d'identité. Partant de tous les temps depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire que ses enfants sont ses enfants. Tel que vous êtes là, messieurs les journalistes, vous n'avez aucun document qui atteste que vos enfants à la maison, ce sont vos enfants. Vous n'avez rien comme document, en commençant même par le chef de l'État, jusqu'au dernier citoyen de la République. Nous n'avons pas de documents qui certifie que nous avons, nous, ces enfants-là sont nos enfants. Donc, la pièce d'identité. La pièce d'identité. Et c'est ce qu'il tire comme ça n'est pas dans la tête des gens. Écoutez, quelqu'un qui habite un villageois de Luisa, qui traverse vers l'Angola, est-ce qu'il connaissait que c'est pièce d'identité? Et comme lui vivait sans pièce d'identité, il se retrouve à l'Angola sans pièce d'identité. Quand on lui dit d'aller se procurer une pièce d'identité, il trouve ça un dérangement. Ça fait partie de la culture. Raison pour laquelle, en son temps, souvenez-vous, j'ai parlé de la citoyenneté. Le ministère de la citoyenneté dont fait l'objet aujourd'hui, ça fait partie de ses prérogatives d'amener le pays à être dans la réglementation internationale. Un citoyen, c'est qui? Quand on vous dit que vous êtes citoyen, c'est-à-dire que vous avez les documents qui attestent que vous êtes citoyen de telle contrée, de telle nationalité, de tel niveau de titre, de telle profession. Mais est-ce qu'un Congolais, il a quelle carte qui atteste ça? Voilà les conséquences. Donc, nous ne pouvons pas continuer à incriminer les pays qui nous chassent. Ce n'est pas le tout premier cas. Nous sommes chassés, nos confrères sont chassés de partout. Mais est-ce que nous devons continuer à condamner les gens qui nous chassent? Nous devons nous-mêmes nous condamner que non, notre culture n'est pas bonne. Nous ne savons pas nous mettre à la hauteur, au niveau, à la réglementation, parce que le monde évolue grâce à la Convention. La Convention dit que même le président de la République de chez nous, avant qu'il voyage, il doit avoir les visas. Les chefs de l'État, chronique, c'est un président en fonction. Mais pour qu'il se rende aux États-Unis, en France, partout, il doit avoir un visa. Le protocole est là pour faire ses démarches. Mais maintenant, les citoyens congolais, ils ont quels documents? C'est ça ce qu'on appelle la réglementation, les normes internationales. Mais nous ne voulons pas ça. Nous vivons comme des animaux. C'est un pays, nous vivons comme des animaux. Aucun document, vous vous déplacez, un matin on vous arrête, tantôt. Une carte d'électeur, la carte d'électeur devient carte d'identité, et maintenant qu'il n'y a plus, il y a pas élection en 2018, en 2017, alors la carte d'électeur devient quoi? Les problèmes de fond, messieurs les journalistes, on n'en parle pas. Toujours machine à voter, dauphin, tricherie, calendrier électoral, l'argent, ce conseil de sécurité, France, Belgique, États-Unis, mais on ne parle pas des problèmes de fond des Congolais. Voici un élément important auquel vous devez faire vraiment des bruits.
Mais Singi Poulou, nous rappelons quand même que parmi le, il faut qu'on fasse la différence parce qu'il y a des Congolais qui avaient fui des atrocités au Kasaï, qui étaient comme réfugiés sur le sol angolais. Il reste à savoir, est-ce que ceux qui sont expulsés sont-ils parmi ceux qui se sont installés irrégulièrement ou bien ceux qui se sont retrouvés avoir fui parce que les témoignages font état de gens qui disent avoir fui les atrocités et qui étaient comme réfugiés et qui se retrouvent encore expulsés pour se retrouver déplacés. Et c'est à ce niveau qu'il faut aussi essayer de d'observer. Les réfugiés, quand ils se retrouvent dans un pays étranger, c'est en ayant fui la guerre, ce sont des difficultés.
Messieurs les journalistes, qui vous a dit qu'un réfugié sans document doit être qualifié réfugié? On vous prend réfugié. Mais d'abord, de vous-même, vous devez avoir des documents. Qu'est-ce qui prouve que ces réfugiés-là sont des Congolais? Mais c'est ça la question que du côté angolais se pose. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu dis là que tu es Congolais? Qu'est-ce qui prouve que tu es Congolais? Tu as quel document? La maman se présente. Non, c'est mon fils, oui. Montre-nous les documents. Ils ont quel document? C'est un problème de culture. Monsieur le journaliste, nous devons apprendre à nous condamner nous-mêmes. Il y a un philosophe qui a dit: celui qui condamne les autres manque de maturité. Nous devons apprendre à nous condamner. Quand ça ne marche pas, nous devons arriver à nous condamner nous-mêmes. Nous devons arriver à nous condamner nous-mêmes. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a-t-il un peuple sans carte d'identité au monde? Existe-t-il? Messieurs les journalistes, aidez les gouvernements à comprendre que Nsing, quand il vous tire les oreilles, il a raison. J'ai toujours dit, le ministère de la citoyenneté, c'est ça son travail. Quand est-ce qu'on parle d'un citoyen? Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, sa carte existe. Mais le ministre de la citoyenneté, il fait quoi? Soyons sérieux. Est-ce que vraiment, parce que dans tout phénomène, il y a toujours les dérapages. Si le gouvernement angolais a connu quelques dérapages, oui, mais c'est minimisable. Mais la majorité de tous ces gens-là, qui peut avoir une carte d'identité?
Pour vous, le problème se retrouve dans le fait que beaucoup de gens, en partant du pays, les gens n'ont pas d'identité. Et quand ils se retrouvent aussi ailleurs, ils s'y retrouvent sans chercher les documents qui leur permettent de vivre dans ces pays. C'est un problème de culture et de mentalité. Merci beaucoup, voilà. Singi Poulou. On rejoint Sylvain qui nous appelle des Mahagi, qui est aussi à la frontière avec un pays comme l'Ouganda. Sylvain, on a vu votre réaction sur Facebook, mais si vous pouvez rebondir sur ce que disait Singi Poulou tout à l'heure. Est-ce qu'on a aussi cette impression à Mahagi qui est en contact direct avec l'Ouganda, que beaucoup de Congolais ont cette culture de pouvoir se déplacer pour aller en Ouganda sans document d'identité et même sans chercher les documents pour résider dans ces pays?
Merci Piero. Je voudrais vous souhaiter très bonne prestation pendant cette émission. Je salue M. Singi et aussi je respecte son point de vue. Mais cependant, je dois les conseiller à consulter les droits humanitaires internationaux. Qu'est-ce que cela dit en matière de déplacement brutal des populations entre différentes nations, entre différents États? Nous devons aborder cette question avec beaucoup plus de sens de responsabilité. Pourquoi, comme vous l'avez dit, effectivement, il faut qu'on puisse situer le débat. Nous avons affaire à des concitoyens qui ont quitté notre pays sur base de pression de la guerre. Eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu. J'insiste sur la lecture très, très, très correct du droit humanitaire international, puisqu'il y a beaucoup de matières là-dessus. Il faut aussi dire clairement que lorsque un citoyen se retrouve en difficulté et doit se déplacer dans un autre État, il est sous la protection de la communauté internationale à travers ce que nous appelons ici les HCR. Et vous connaissez cela. Et comme vous le savez, dans les mécanismes de fonctionnement des HCR, c'est toujours en partenariat avec les États concernés. Ça veut dire, ce qui devrait se passer ici, c'est la RDC, mais aussi l'Angola. Là n'est pas la question. La question était d'analyser la situation. situation qui est arrivée, les tortures, les traitements dégradants, et aujourd'hui je dis aussi maintenant les jeux diplomatiques qui se créent entre la RDC et l'Angola. Ici, effectivement, comme Signe l'a dit, il semble qu'il a abordé la troisième partie de mon intervention, ça veut dire le comportement de nous, Congolais, en tant que citoyens du monde. Est-ce qu'il y a un problème? Je peux dire oui, dans des moments qui sont calmes et non pas dans des moments de guerre. Nous n'avons pas ici à s'attaquer à nos frères. D'ailleurs, je dois aussi leur présenter mes sentiments les plus attristés par rapport à ce qu'ils ont traversé en Angola. Et ceci, c'est une interpellation que je donne aussi au gouvernement congolais. Il faut retenir ici que la responsabilité de l'État congolais dans la protection de nos concitoyens qui sont en Angola doit être assumée par notre gouvernement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce principe de la réciprocité qui va consister à chasser les étrangers qui sont chez nous. Mais on doit aussi se poser la question sur ce qui est arrivé à nos concitoyens, ça veut dire les Congolais en Angola. J'ai visualisé une vidéo, monsieur le journaliste Pierrot. Il faut être vraiment humain pour comprendre la situation que ces gens traversent. Et je me pose une question. Si réellement nous avons des États modernes, pourquoi il ne faut pas interroger les instruments internationaux en matière de protection des personnes réfugiées? Non seulement aujourd'hui le gouvernement congolais devait peut-être procéder à un mécanisme de réciprocité dans les relations internationales ou les relations entre les États, mais aujourd'hui, c'était question, je l'ai dit, dans les concerts des nations de l'Afrique, on devait interroger sur les rapports qui existent entre les États membres de l'Union africaine. Nous avons suivi, ça ne fait pas plus de 3 mois. L'Union africaine a déjà pris une décision de pouvoir protéger la circulation des personnes et des biens dans son espace. Mais lorsque un pays qui sait bien qu'il est de l'Union africaine traite avec mépris les citoyens de notre État qui est du même espace géopolitique continental, eh bien je crois qu'il faut interroger sur les relations diplomatiques qui existent entre les États. J'ai dit qu'aujourd'hui le Congo doit revoir sa politique interne et internationale. Les outils de la gouvernance internationale ou d'anticipation d'effets négatifs face aux intérêts de la nation congolaise doit être réadapté par l'État congolais. Lorsque nous nous retrouvons en Angola, et vous avez posé une question, effectivement, je suis à Mahagi, sa frontière avec l'Ouganda, nous avons des Congolais qui ont fui la guerre de Ndougou, qui sont en Ouganda. Et ici, nous n'allons pas rentrer sur les cas, mais je vais prendre les cas récents du Kenya. Vous avez suivi comment est-ce que la police kenyane a traqué les Congolais au Kenya. Mais là encore, nous avions suivi à l'époque, et c'était avec un sentiment de mécontentement absolu face aux autorités de notre pays, que le plus souvent, nous gérons les conséquences. Ça veut dire, on veut d'abord laisser les Congolais tomber dans les mal, massacrer, criminaliser, et d'ailleurs d'une manière cruelle, que vous allez voir l'État congolais prier. Et lorsque l'État congolais prend la parole, j'ai comme l'impression que c'est vraiment dans la faiblesse absolue. Même si nous parlons du mécanisme de réciprocité des relations internationales entre les États, mais chez nous, c'est le plus souvent en position de faiblesse, c'est des visions de faiblesse que nous réagissons. Aujourd'hui, nous devons le dire clairement, et c'est honteux pour notre gouvernement. Notre population ne se sent pas être gouvernée. Notre population ne se sent pas en sécurité. Notre population traverse un moment de criminalité cruelle. Et lorsqu'elle s'est déplacée pour avoir la sécurité ailleurs, c'est encore des traitements dégradants, inhumains. Ce que même les Nations Unies n'acceptent pas, les regroupements politico-sociaux de l'Afrique n'acceptent pas, et aussi l'Union africaine n'accepte pas.
Mais Sylvain, quand vous posez toutes ces questions, quand on a vu la situation il y a quelques années de l'expulsion des Congolais vivant au Congo Brazza d'en face, on a vu dans quelles conditions les gens sont revenus. Ce qui se passe en Angola maintenant, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec cette violence rare, il y a cette convention entre les accords entre les deux pays sur la convention sur l'établissement et la circulation des personnes et des biens signée le 3 décembre 99 où le gouvernement estime que l'Angola ne respecte pas. Mais est-ce que vous sentez devant ce genre de violence, que ce soit ce qui s'est passé au Congo Brazza ou ce qui se passe actuellement en Angola, que ce soit la SADC, que ce soit la CIRGL, que ce soit l'Union africaine, on ne sent pas ces organisations internationales condamner ou même mener certaines démarches pour quand même qu'on arrive relatives au respect des citoyens, malgré qu'ils se soient retrouvés peut-être illégalement sur ces sols.
Très bonne question. Et d'ailleurs, c'est là où je venais. Je me suis toujours posé la question, lorsque j'analyse ces faits, que se disent ces présidents africains dans les différentes rencontres qu'ils ont chaque fois? Quels mécanismes prennent-ils pour que désormais, dans des situations X ou Y, les citoyens de leur pays correspondant soient traités avec dignité? Nous avons comme l'impression, et je l'ai toujours dit, c'est que dans la plupart des cas, des rencontres entre chefs d'État africains, ce sont des rencontres d'amusement. Des rencontres où ce sont des dossiers personnels entre eux se traitent et non pas des dossiers concernant les populations.
Mm-hmm.
Puisque lorsque vous regardez, et je vais donner un exemple banal, lorsque vous regardez des pères dans une même avenue rester autour d'une petite bouteille de boisson en train de s'enivrer, mais que les enfants se battent chaque jour, donc il faut bien dire que les parents sont des hypocrites entre eux, ils ne se disent jamais de vérité. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, comme la plupart des cas, les relations internationales sont assises sur le principe d'un verre à moitié plein, à moitié vide, nos chefs d'État ont vendu nos populations. Et ici, je dis, pour terminer, que le gouvernement congolais se réorganise pour commencer à se défendre à l'interne afin d'anticiper des conséquences néfastes sur nos populations à travers le pays.
Merci beaucoup Sylvain. Cette question du rôle de la CIRGL, que ce soit de la SADC, l'Union africaine, autour des atrocités qui sont commises quand il s'agit de l'expulsion des citoyens vivant sur un autre sol, et cette question se pose. Et vous estimez que le président africain, quand il se retrouve dans des rencontres des sous-régions internationales, il joue plus à l'hypocrisie qu'aux problèmes réels qui touchent à leur population. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour très cher ami Pierrot et bonjour à l'ensemble de votre équipe et à tous les auditeurs compatriotes congolais.
On vous écoute Jean-Claude.
Oui Pierrot, vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en Angola donne du grain à moudre à ceux-là qui disent que en République démocratique du Congo l'État n'existe pas. Vous savez Pierrot, nous les Congolais ne sommes pas considérés à l'extérieur parce que ici même au Congo, dans notre pays, nous ne sommes pas considérés. Vous savez la manière avec laquelle nous sommes traités, moi je pense que c'est inhumain, c'est dans une situation vraiment inhumaine et dégradante. Nous avons vu ce qui se passe, circuler dans des vidéos et dans des WhatsApp, même dans des Facebook, c'est regrettable. Et nous avons un État qui s'appelle État République du Congo avec un gouvernement. La semaine, je pense que c'était la fin de la semaine passée, vous avez entendu toute une cacophonie au sein de notre gouvernement. Le vice-ministre des Affaires étrangères qui dit autre chose, le ministre des Congolais des Diasporas qui dit autre chose, le ministre de l'Intérieur qui dit autre chose, tout ça résulte de la faiblesse de notre État. Vous savez, dans toute la sous-région ici, la RDC, c'est l'État, moi je pense que c'est l'État qui est beaucoup plus minimisé. Aujourd'hui, je ne crois pas, nous avons des Angolais qui sont dans notre pays, des réfugiés, ça fait plus de 40 ans. Est-ce que vous voyez ces Angolais sont touchés? Pas du tout, parce que l'Angola est militairement forte. Nous avons ici, moi je pense malheureusement nous n'avons pas d'invité parce que sinon j'allais poser une question pour savoir si les Mbororo que nous gardons dans notre pays sont des exilés, sont des réfugiés ou ils s'appellent des étrangers, dans quel sens? Parce que nous constatons, vous et moi, nous sommes en train de constater sans notre volonté que ces Mbororo volent, ces Mbororo violent, ces Mbororo pillent et tout ce qui est dans leur semble dans notre pays alors que nous avons un État congolais. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Nous avons les Hutus ici chez nous, à l'Est, où ils sont en train de violer, de voler et de piller nos ressources. Et nous avons l'État congolais. Nous avons vu plusieurs opérations qui sont faites pour pouvoir éradiquer ce phénomène, alors que jusque-là, ça fait plus de 2 décennies que nous avons ces gens-là qui sont en train de faire n'importe quoi. Nous avons, heureusement, que vous avez posé notre ami Sylvain qui a demandé à Singh d'aller d'abord étudier les coups des droits humanitaires internationaux pour voir ce qui se passe. Parce que si aujourd'hui nous manquons des cartes d'identité, la faute c'est à qui? C'est pas à la population. La faute, c'est à l'État congolais. Nous avons ce gouvernement, ça fait plus de 20 ans, alors qu'on ne songe pas. Nous, dans certains coins ici, on montre les cartes d'électeurs et puis on bloque même cette carte d'électeurs pour que vous puissiez payer plus de 10 000 ou 15 000 francs congolais. On est où là? C'est parce que nous ne sommes pas considérés ici que les autres, même là à l'étranger, quand ils font ça sciemment parce qu'ils disent qu'il n'y aura aucune réaction. C'était en 2011, 2012 ou 2013. Les Congo-Brazza ici. Qu'est-ce qui n'a pas fait? Nous avons des gens qui sont ici même et qui sont abandonnés à leur triste sort, même là chez vous à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est très malheureux d'être Congolais à un moment donné, avec ces beaux pays, ces grands pays, les pays les plus riches du monde, Pierrot, et nous ne sommes pas considérés. C'est très malheureux.
Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. On comprend votre douleur. Si vous revenez sur cette question de la carte d'électeur, il y a Sigi Pouloulou qui a évoqué sur la question de l'identité et que beaucoup de gens ont tendance à se retrouver ailleurs sans identité. Rappelons que c'était lors des élections de 2006, je crois même aussi 2011, que la carte d'électeur faisait office des cartes d'identité, mais cette mention a été enlevée, je crois bien, avec la nouvelle carte d'électeur. C'est qu'il faut dire aujourd'hui que c'est d'une manière... on peut dire tacite qu'elle est présentée comme une pièce d'identité, mais en réalité, elle ne fait pas d'office des cartes d'identité aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un document d'identité. Mais pour vous, vous estimez que c'est une question de la faiblesse. Si le Congo est fort, il y a moyen que tous les autres pays puissent respecter les ressortissants congolais vivant sur leur sol, quelle que soit leur situation d'irrégularité. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alain, vous êtes à Manono. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour, Alain. Voilà, là on a des petits soucis avec les téléphones d'Alain qui est à Manono. Peut-être on pourra voir s'il peut se déplacer un tout petit peu. En attendant, nous retournons ici à Kinshasa. Maître Roger, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, particulièrement tous les jeunes de la commune de Lancelé.
On vous écoute.
Merci Pierrot pour la thématique du jour. Vraiment, l'actualité me pousse à épingler trois points par rapport à la situation que vivent nos frères dans les différents pays frontaliers de la RDC. Et je dirais dans tous les pays étrangers. En effet, de ce qui se passe, moi j'enregistre cette dernière vague d'expulsion sous la continuité de la pression que le gouvernement congolais a de la part des autres gouvernements et particulièrement les pays voisins. Donc, c'est une façon de faire pression à la RDC de pouvoir tenir le vrai élection. Parce qu'ils ont leur agenda, je ne sais pas trop ce qui était passé par le Rwanda et le Congo, l'Angola. Ça continue et c'est une façon de pouvoir perturber le processus électoral. C'est sur cette base-là que l'Angola a fait cette dernière expulsion. Deuxième des choses, je me dis que aussi, d'une part, c'est un message envoyé au gouvernement congolais, que tous les élites congolais doivent prendre conscience pour une prise de conscience responsable afin d'administrer une bonne gestion et une bonne gouvernance à ses habitants. Parce que quand vous voyez, quand un Congolais arrive dans un autre pays, on l'identifie facilement par son extravagance. Et dans tout et pour tout, de tout ce que nos prédécesseurs ont parlé, je suis d'avis. Mais je me dis que nous avons un sérieux problème en interne. Je pense que ça, c'est la cinquième fois que je pousse en parler sur la radio Okapi. Je dis que nous avons un problème sérieux de culture, de la gestion de la chose publique. Tant que nous n'allons pas maîtriser cela, nous n'aurons pas à bien distribuer les ressources du pays et ce qui poussera tous les autres membres, toutes les autres populations de pouvoir aller toujours dans d'autres pays et aller dans des conditions que vous connaissez vous-même. Je ne peux pas parler de pièces d'identité parce que quand ceux qui ont fui sous la menace de Kamwana Nsapu, est-ce qu'ils avaient fui avec des pièces d'identité et tout ce qu'ils ont expulsé? Comment ils ont su que c'était des Congolais? Parce qu'ils ont trouvé sur eux quelque chose qui indiquait que c'était des Congolais. Mais ce qui est sûr de ce que moi je pouvais dire, c'est qu'il faut que nous prenions une conscience, nous puissions nous asseoir et réfléchir sur comment nous pouvons gérer très bien ces pays et mettre les Congolais à la place qu'il faut. Parce que quand nous sortons en dehors de ce pays, c'est malheureux. Dans tous les pays frontaliers. Vraiment, je dis qu'il y a un appel sérieux pour un réseau patriotique et j'ai un appel à tous les vrais intellectuels, particulièrement les universitaires. Ils sont en train de courir derrière les politiques au lieu de réfléchir sur comment nous pouvons faire orienter ces pays. Les universitaires sont des consultants des politiciens, mais ici les universitaires sont devenus des badauds, des garçons de messages des politiciens. Et ça, avec cet allure, nous continuerons à faire l'objet des stigmatisations des autres pays. Voilà ce que je pouvais dire ce matin.
Merci beaucoup, Roger. Pour vous, c'est, vous estimez d'abord que c'est une forme de continuité des pressions sur la RDC pour que la RDC arrive à tenir de vraies élections. Mais d'un côté, c'est aussi la faiblesse dans la gestion et la gouvernance du pays. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à pouvoir quitter le pays pour aller trouver refuge ailleurs où ils croient qu'ils peuvent être bien traités, où ils peuvent trouver la vie. Et la conséquence, c'est que nombreux s'y retrouvent d'une manière irrégulière. Merci beaucoup, Roger Elie. Vous gardez la ligne, vous êtes en Bandaka. Et Charles à Kinshasa, 081-890-4969, 081-890-4969 et 09-97-06-4969. Ce sont les deux lignes pour intervenir en direct dans ce magazine.
Funky.
Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tout le lundi à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Parole aux auditeurs. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Elie, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Mandaka. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent pour l'instant. Je remercie les différentes interventions des uns et des autres. Je crois que la question des rapatriements des Congolais vivant en Angola semble un peu sensible pour nous qui sommes un peu congolais, parce que lorsque nous faisons des analyses concernant la date, par exemple le mois de juillet 2013, lorsque nous avons vu le gouvernement congolais qui signait un accord, une convention avec l'Angola sur des questions de rapatriement des Angolais qui sont au Congo, donc il y avait une procédure déjà établie entre le gouvernement angolais et le gouvernement congolais. Et dans cette logique, il y avait dans cet accord une procédure pour que le gouvernement congolais puisse rapatrier les Angolais qui sont au Congo. Alors, dans cette logique et l'idée, nous avons vu une vice de procédure dans la mesure où les Angolais ont fait, en quelque sorte, une violation de l'accord. Parce que dans le mois de juillet, dans cette convention, sur les modalités de rapatriement des Angolais vivant en RDC, près de 4000, si je garde encore une belle mémoire, des Angolais étaient rapatriés à Luanda. Mais il y avait quelques points dans cet accord. Il y avait premièrement le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Il y avait aussi l'État qui voudrait procéder au rapatriement des réfugiés sur son territoire, devrait en aviser au préalable l'autre partie. Il y avait aussi une mesure pour veiller aux bonnes conditions humanitaires, la protection des réfugiés. Et dans cette logique, le gouvernement congolais, en commun accord avec l'Angola à l'époque, en 2013, avait procédé à des vagues rapatriements volontaires et involontaires qui seraient suspendues suite à des déviations. Mais dans cette logique-là, il y avait à bord, il y avait l'avion réservé pour rapatrier les Angolais, affrété par l'HCR. Mais chaque famille recevait à l'époque 2013 $50 pour les enfants et $100 pour les adultes. Ils s'étaient rapatriés avant leur départ avec de l'argent, avec des conditions préalables pour les rapatriements. Mais ce que les Angolais ont procédé, c'est une injure publique qui viole les droits humanitaires dans les procédures des Nations Unies. Et donc, dans cette logique, Ça prouve à suffisance que la RDC n'est pas considérée par ses voisins. Regardez aujourd'hui, 200 Congolais en Angola. On a rapatrié la totalité de tous les Congolais en Angola. Mais quelles sont les mesures prises par les Angolais? Est-ce que les Congolais étaient automatiquement rapatriés ou ils étaient chassés de l'Angola? Parce que il y a des questions humanitaires aujourd'hui. Lorsque vous rapatriez les gens dans votre pays, il faut réserver pour ces gens quelque chose pour les déplacements. Il faut réserver pour ces gens quelque chose pour les moyens de transport. Donc on ne peut pas chasser les Congolais comme si nous sommes des animaux. Et dans cette, vous avez suivi la déclaration de l'agence de renseignement américaine qui a publié dans son rapport et que voilà, les Congolais qui étaient en Angola ne sont pas chassés comme des Congolais. C'est parce qu'il y avait, il y avait des Rwandais, il y avait certaines populations de l'Ouganda qui sont en Angola, qui se sont infiltrées en couleur des Congolais et pour créer la déstabilisation politique dans cette partie de la République. Voyez-vous, c'est une injure publique. Et donc aujourd'hui, nous avons suivi même les conseils des ministres qui s'est tenu, je pense que c'était le mercredi. Je demande, qu'est-ce qui a été pris comme modalité afin de pouvoir sauver la vie des Congolais qui sont maintenant qui sont maintenant chassés en Angola? Est-ce qu'il y a il y a des modalités qui étaient prises par le gouvernement congolais? Non plus. Le gouvernement congolais pense toujours à des discours qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas dans une idée de pouvoir sauver la vie des Congolais qui sont chassés maintenant en Angola.
Alors pour vous,
dans la logique des choses, ce qui pourrait être fait maintenant, c'est que le gouvernement congolais devait décaisser quelque chose pour sauver la vie des Congolais qui sont maintenant chassés.
Alors pour vous, la question se pose en deux.
Oui, ainsi de suite. Dans la politique internationale.
La question se pose pour vous en deux, Elie. Il y a d'abord le respect des accords entre les deux pays. On a vu, il y a eu la cérémonie pour le rapatriement volontaire de réfugiés angolais qui vivaient ici en RDC. Vous l'avez vu, ils ont été accompagnés, mais vous auriez aussi aimé voir la procédure se dérouler de la même manière du côté de l'Angola, quand bien même on pourrait accuser les autres de vivre d'une manière irrégulière, mais qu'il y ait des accords qui permettent à ce que la RDC récupère ses ressortissants avec dignité, et c'est ce que vous voulez que le gouvernement fasse. Cela veut dire prendre des mesures et mobiliser des moyens pour prendre en charge ces personnes. Rappelons que la localité de Kamako dans la province du Kasaï, elle a connu plusieurs déplacés, ceux qui se sont déplacés depuis l'année passée pour fuir les affrontements dans la région du Kasaï et qui sont retrouvés en Angola, et ceux qui sont renvoyés de l'Angola vers la RDC, toujours par la même frontière, par la même localité. Et pour vous, il faut des gros moyens pour pouvoir prendre en charge ces Congolais qui vivent dans des conditions assez précaires à Kamako. Merci beaucoup, Elie. Nous retournons ici à Kinshasa avec vous, Charles. Bonjour. S'il vous plaît, Charles, pourriez-vous arrêter votre poste récepteur le temps de pouvoir revenir à vous? Charles, vous arrêtez votre poste récepteur pour que nous puissions bien communiquer. Et là, on va revenir à vous. Nous faisons un bon Akikuit. Bemba, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Hein? Je rappelle que je suis Kabemba.
Ah, c'est Kabemba. Vous êtes Akikuit. Oui, oui. S'il vous plaît, si vous pouvez arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Pendant que Kabemba arrête son poste de récepteur, je crois que nous revenons à Kinshasa. Avec vous, Charles, bonjour.
Qu'est-ce qui a été dit quand même?
Charles, vous êtes avec nous? Voilà, là on a des petits soucis avec les différentes lignes des auditeurs qui sont sur les antennes. Alors Pitu et Taku Lungongo, Charles et Kabemba qui est à Kikuit, on va voir comment améliorer cela. Pitu et Taku Lungongo, merci Pitu de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pitu.
Pitu, vous êtes avec nous, bonjour.
Piro.
On vous écoute.
Oui, bonjour Piro, bonjour à tous les auditeurs. Piro, nous devons nous inquiéter par rapport à cette irresponsabilité de notre gouvernement. La grande partie, la grande part de responsabilité revient à notre gouvernement. N'oublions pas que nous sommes un pays souverain. Dans tout ce que nous vivons ici, que ce soit en Angola, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Kenya, que ce soit au Congo-Brazzaville, etc., comment pouvez-vous comprendre, Piro, un pays souverain comme le nôtre soit réduit jusqu'à ce niveau? Ce pays ne manque absolument rien. Que nos dirigeants aient l'amour et la compassion d'aider la population. Je prends l'exemple de ces réfugiés qui ont fui la guerre des Kamuinasans pour allant se résider au niveau de l'Angola. Ces gens, comme l'a dit mes précédents auditeurs, ils ont bien accusé que ces gens sont sortis du pays sans pour autant voir des documents. Et il faudrait maintenant vous renseigner dans quelles conditions vivaient ces Congolais au Congo. Alors en Angola, ils trouvent qu'il y a la lumière, il y a, je sais pas moi, comme ils trouvent l'Angola le paradis. Moi, j'ai vécu dans des frontières ici, Pierrot, je vous dis, la violation, les violations plutôt des droits humains, des droits de l'homme est fréquent en Angola. À chaque fois qu'il y a un refoulement, allez vivre des scènes qui se passent au niveau de nos frontières. Vous allez déplorer, Pierrot. Il y a une femme dernièrement, on a refoulé, il était épouse à un militaire angolais. Quand on l'a refoulé, elle était à peine à 2 jours de césarienne. Donc elle avait un bébé de 2 jours et avec césarienne. Mais voyez dans quelles conditions cette femme est sortie du pays, de l'Angola, parce qu'il était dans soi-disant dans l'irrégularité. Et puis bon, l'épouse de ce militaire qui ne voulait pas que cette femme puisse exister en Angola. Voilà, donc tout ça, ça rassemble, ça donne une vision que le gouvernement congolais doit s'assumer. C'est vrai de prendre des décisions, c'est vrai de promettre de taper les Angolais, les étrangers dans ce pays dans 2 mois, oui. Mais qu'est-ce que vous faites de Congolais qui sont ici, ayant l'amour de ce pays? Moi, je crois que ce pays doit quand même vivre ces moments, ces bons moments. Les Congolais doivent vivre des bons moments dans leur pays. On ne manque rien dans ce pays, sauf une bonne gouvernance et l'amour de sa population, parce que la terre que nous vivons ici, la terre est un capital très important pour notre démarrage de l'économie. Merci Pierrot, je vous remercie.
Merci beaucoup Pichou. C'est une question de gouvernance des responsabilités du gouvernement, parce que vous estimez qu'ici il y a une redistribution des richesses et la gouvernance de la terre. Beaucoup de Congolais ne peuvent pas se retrouver à l'extérieur dans les conditions difficiles pour chercher la survie. Merci beaucoup Pichou pour ces cris. Pépé, vous êtes à Kisangani. Bonjour Pépé.
Bonjour Pierrot et bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio Café.
On vous écoute Pépé.
Oui, Pierrot, c'est triste pour nous. Aujourd'hui, les étrangers qui vivent en RDC sont à l'aise plus que les Congolais. Et si aujourd'hui, DGM et si de suite les services là de migration fait le travail comme il faut, en tout cas, ce que les Angolais vont faire en RDC sera pire encore ce que la RDC doit faire pour les Angolais, pour les Ougandais qui sont en RDC. Aujourd'hui, il y a les Rwandais qui vivent ici à Kisangani, au Kabaouma. Et ils ont des documents, ils ont fait plus de 10 ans là-bas. Et c'est ça que je voudrais balayer directement ce que Poulou a dit par rapport à l'identité, par rapport aux pièces d'identité. Les pièces d'identité, les gens qui ont été chassés, et on n'a pas tenu des comptes des pièces d'identité. Ils ont été chassés à tirer des balles, des balles à tous les sens, et les gens ont pu avoir les documents ou pas. Donc, de toute façon, que moi, je voudrais un peu interpeller notre gouvernement. Aujourd'hui, on s'apprête vers les élections. Nous devons, le climat devait d'abord nous montrer à quoi ils sont en train de nous protéger. Ils sont derrière nous, au lieu de chercher seulement à leur donner des voix, alors que nous vivons dans notre pays comme les gens qui sont des étrangers ou comment. Et vous allez voir même dans les domaines d'emploi, il y a les Congolais qui sont massacrés par les étrangers ici en RDC, avec des salaires rares que je n'arrive même pas à considérer. Et cela se fasse au vie et aussi de nos autorités. Moi je comme un militaire l'a dit, nous sommes en train de vivre les fruits de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Et c'est ça que les pays voisins profitent à cela pour piller nos richesses, pour faire de n'importe quoi aux Congolais. En tout cas, s'il y aura élection le 23 décembre, les Congolais devraient prendre les choses à main pour corriger ce qu'il y a à corriger, sinon ça sera encore plus pire après les élections.
Merci beaucoup, Pépé. Il faudrait la responsabilité. Mais c'est une question de gouvernance encore, vous l'avez dit, s'intéresser aux conditions de vie, conditions de travail des Congolais sur le sol congolais, c'est ça ce que vous souhaitez, même après les élections, pour que enfin les pays voisins et les autres pays puissent respecter les Congolais qui vivent sur leur sol. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous retournons à Kinshasa avec vous, Charles. Je crois que ça s'est amélioré entre vous et les studios. Bonjour, Charles.
Oui, bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Soyez-en remercié, Pierrot, pour la parole que vous m'accordez. Je crois que mon intervention au cours de cette thématique va s'articuler sur trois petits points. Le premier point, je partage d'abord la compassion avec nos frères congolais qui sont au niveau de Kamako. Je présente aussi mes condoléances aux familles qui ont perdu déjà quelques personnes au niveau de Kamako. Je crois que le sujet est vraiment délicat. Si nous intervenons, c'est par compassion et puis et par amour pour nos frères et nos compatriotes. Mais la question qui reste à se poser est celle-ci. La relation entre le Congo et l'Angola, nous voulons savoir c'est arrivé à quel niveau, parce que ça ne fait pas longtemps, il s'est tenu des réunions des chefs de l'État en Angola. Je ne sais pas au cours de cette réunion, qu'est-ce qui s'est dit par rapport aux gens que les présidents de la République sont en train de gouverner. Ça fait très mal lorsqu'on voit les Congolais sont traités de telle manière là, je vous dis, ça fait très mal. Alors on se pose la question, est-ce que nous avons de bonnes relations avec nos pays voisins? On se dit, est-ce que c'est pas un problème politique? Surtout avec des discours qui s'est passé, nous sommes pays souverains, nous voulons pas les ingérences. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à ça que nos frères sont expulsés au niveau de l'Angola? La deuxième chose, le silence de la part de nos autorités, ni le Parlement, ni le gouvernement agit suite à cette histoire. Mais si c'était dans d'autres pays, je crois que les ministres d'affaires étrangères devaient être interpellés même au niveau du Parlement. Les ministres des Congolais, les Congolais aux étrangers devaient même être aussi interpellés. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Un silence absolu. On prend seulement des petites décisions en disant, nous aussi, à notre part, on va expulser. Mais je crois que on dit gouverner, c'est prévoir. Les Angolais, avant de pouvoir expulser les gens, ils avaient donné l'ultimatum. Et notre gouvernement était déjà au courant. Mais ils n'avaient pas pris des précautions pour savoir que lorsqu'on va expulser les gens, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Ils n'ont rien fait. Alors nous disons, est-ce que eux-mêmes aussi, ils ne sont pas concernés dans cette histoire? Mais la dernière préoccupation, Pierrot, on se pose la question, pourquoi pendant ces moments que nous préparons les élections, ces gens-là vont rentrer, ils sont déjà dans notre pays. Bientôt, les élections se prennent déjà à l'horizon. Est-ce que c'est pas pour ambier aussi des élections dans notre pays? Voilà un peu des petites questions que j'avais, ou des petites réflexions que j'avais à faire par rapport à cette situation qui nous laisse vraiment perplexes. Je vous remercie, Pierrot.
Merci beaucoup, Charles. Hein, vous vous posez beaucoup des questions. Il y a la question des compassions, mais vous vous demandez aussi l'expulsion avec brutalité et violence. Est-ce que cela détermine-t-il des bonnes relations entre la RDC et l'Angola? Est-ce que c'est pas aussi une question de relations politiques avec la réclamation de souveraineté de la RDC dans plusieurs déclarations, mais aussi la question qui touche au processus électoral, pourquoi expulser en masse des milliers de personnes à quelques jours de la tenue des élections? Mais à cela qu'étienne, votre souci c'est de voir le gouvernement prévoir et prendre des mesures pour l'encadrement de ceux qui sont expulsés, mais pourquoi ne pas aussi élargir ailleurs et prendre des précautions pour éviter que cela ne puisse arriver? Et Pascal, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Dungu. Bonjour Pascal.
Bonjour Monsieur le Pierrot, bonjour la Radio Capi, merci pour la thématique du jour.
On vous écoute.
Alors,
Pascal.
Avant d'intervenir, nous devons d'abord distinguer, car il y a l'expulsion et il y a le rapatriement. Parce que je vois les précédentes qui étaient en train de dire le rapatriement ou autre, les expulsions. Et puis dans ce sens-là, nous devons voir, il y a les immigrants et il y a aussi les réfugiés. Alors, pour mon intervention du jour, je vais orienter à deux grandes catégories, à savoir le changement de mentalité, y compris aussi la responsabilité politique et patriotique. À ce qui concerne le changement de mentalité, pourquoi je voulais dire cela? Alors, nous, le peuple congolais et congolaises, nous avons la culture de non-respect de nos lois à travers le problème des mafias. Monsieur le journaliste, nous sommes ici à Dungu. Ici à Dungu, c'est un territoire limitrophe du Sud-Soudan. Nous sommes à la frontière avec le Sud-Soudan, le RCA, voire le Soudan du Nord. Alors, monsieur le journaliste, au Sud-Soudan, il y a le peuple zandé. Ici, à Dungo aussi, les Autochtones, c'est le peuple zandé qui parle le même dialecte, le pas zandé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le peuple zandé de Dungo qui quitte ici vers Soudan en parlant le dialecte, le pas zandé, pour se conformer avec les Zandés de Soudan, afin qu'ils puissent rester illégalement dans notre pays. Et cela, monsieur le journaliste, ce n'est pas la culture dont nous devons encourager le peuple d'aller dans d'autres pays sans pourtant se régulariser. Alors, pour la respect, la responsabilité politique, notre gouvernement devait arranger leur politique afin de vendre à la masse internationale pour que notre pays soit respecté. Si nous prenons l'exemple de réfugiés, donc les réfugiés sont venus de quoi? Parce qu'il y avait troubles dans notre pays. Alors ces troubles-là, notre pays était incapable de les maîtriser et c'est pour ça qu'il y avait des réfugiés qui sont sortis vu les atrocités. Alors ici à Dungu, nous avons plus de 9000 réfugiés qui sont venus de Sud-Soudan, qui sont ici dans le territoire, pas moins de 20 km de centre-ville, sont bien gardés et sont gérés par les HR, les CNR. Alors, les réfugiés, si on se met dans ces hypothèses des réfugiés qui étaient en Angola, ce sont des réfugiés. Est-ce que ce sont des réfugiés? Si ce sont des réfugiés, les responsables comme l'HR, d'autres organisations internationales qui gardent, il a présenté ce document parce qu'un réfugié, il sort dans son pays sans pourtant se prévoir parce qu'il est en train de faire quelque chose. Il y a aussi droit humanitaire international qui demande la protection de ces réfugiés. Mais si c'était le cas, il faut les rapatrier. Même ici à Dungu, monsieur le journaliste, il y a le Sud-Soudanais, il y a le Sud-Africain qui sort de brousse avec les éléras, on les garde dans des familles d'accueil et puis on cherche la médiation avec le pays qu'ils étaient venus et afin de les rapatrier avec à bonne et due forme. Et aussi, il y a le peuple Bororo qui sont ici, sont qualifiés comme des réfugiés climatiques qui commettent des exactions terribles. Le peuple Bororo, conseiller de Sud-Soudan, de Centrafrique, de Libye, sont ici, est en train de faire des commerces sans pourtant avoir des permis de commerce tout consort. Il est en train de tuer. Ils sont en train aussi de brûler des champs. Mais jusqu'à présent, notre gouvernement, nous les organisations des droits de l'homme, on a déjà écrit et crié en vain. Mais pourquoi le gouvernement continue à laisser ses propres enfants et les autres, le pays voisin, ne peut pas nous respecter? C'est ça que nous devons...
Voilà, c'est ça. Mais là, vous avez évoqué la question de ce peuple qui habite de part et d'autre des frontières. C'est comme ça avec la RDC et la Centrafrique, vous l'avez dit, la RDC avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, avec la Zambie, l'Angola, c'est la même chose. Vous avez le même peuple qui vivent de part et d'autre des frontières. Mais aussi, vous estimez que si ces gens qui sont, ces Congolais qui sont expulsés plutôt, est-ce qu'ils étaient dans les camps de réfugiés? Les camps de réfugiés sont sous la responsabilité du HCR. On sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui s'étaient réfugiés en Angola. La question est de savoir aujourd'hui, parmi des milliers de Congolais qui vivent en Angola pour des activités économiques ou qui sont installés, qu'on estime qu'ils sont installés illégalement, il fallait les expulser. Mais aussi à cette question de ceux qui avaient fui des atrocités au Kasaï qui sont retrouvés en Angola. Mais là, on est dans une forme de confusion sur la vague d'expulsions avec plus de 52 000 personnes expulsées. Alors, votre souci, c'est de voir le gouvernement prendre sa responsabilité, non seulement pour ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi pour ceux qui sont à l'intérieur et qui se retrouvent aussi en prise avec d'autres réfugiés qui sont sur le territoire congolais. Merci beaucoup, Pascal. Emery, vous êtes à Kananga. Bonjour. Emery, bonjour.
Bonjour, chers confrères, bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
J'aimerais aborder aussi dans un sens contraire par rapport aux autres. Vous voyez, ça fait mal. Surtout ici au Kasaï,
Voilà, Emery, on a des petits soucis. Si vous pouvez vous déplacer, Emery, tout en intervenant, vous essayez de vous déplacer un tout petit peu. Comme ça, on peut bien suivre votre intervention. Dommage, on a perdu Emery qui... voulait nous parler tout à l'heure de la situation au Kasaï. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Gaston. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Merci.
On vous écoute.
Pierrot. Bon, Pierrot, j'allais d'abord insister sur le plan statut, parce que vous parlez des réfugiés, sur le plan statut des réfugiés. Qui est censé reconnaître ces statuts-là à ces Congolais qui se retrouvent là-bas? Mais s'ils sont réellement réfugiés, dans le vrai sens du terme, je pense qu'il y a des règles qu'il faut appliquer dans les cas d'espèce en ce qui concerne les retours de ces gens-là. Mais dans la plupart des cas, je vais vous dire aussi, sans vous mentir, ce sont les Congolais qui ne veulent pas vivre sur leur territoire. Ils pensent que le mien, c'est ailleurs. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les territoires des États voisins, dans des situations qui ne sont pas régulières. Et dans ce sens-là, si un État voulait appliquer sa loi mettant hors de son territoire ces gens-là, c'est pas mal. Mais là, pour prévenir, moi, je vais demander à tous les Congolais qui ont, et d'ailleurs, qui ont tendance à aller, qui ont tendance à prétendre que la vie s'est mise ailleurs, de chercher vraiment à s'installer ici, parce que c'est la même chose. Il suffit d'avoir la technique de la vie, c'est très important, parce qu'en réalité, tout ce qu'ils font là-bas comme travail, ils peuvent aussi le faire ici sur notre territoire. Mais je voulais aussi demander à notre État de ne pas attendre seulement de pareils moments pour appliquer sa propre loi. Hein. Vous savez, il est dit que lorsqu'une personne se trouve sur son territoire dans une situation irrégulière, il faut le faire partir. Mais pourquoi nous allons attendre ce moment pour agir comme en réciprocité dans une situation qui est normale, hein, que nous devrions normalement, à mon avis. Mais sans vous mentir, beaucoup n'ont pas tendance à venir sur notre territoire. C'est nous qui avons tendance à aller ailleurs. Les gens cherchent à se stabiliser chez eux et nous, on pense que la vie, c'est ailleurs. Et puis, pour finir, je vais dire, par exemple, aux humanitaires qui qualifient ces personnes-là de réfugiés, les humanitaires, surtout au niveau international, lorsqu'ils prétendent dire qu'ils sont des réfugiés, ils doivent agir et puis veiller à ce que l'aide qui sera apportée à ces gens-là puisse arriver au destinataire. Parce que dans la plupart des cas, on a pu constater que les ASBL, les associations profitent de la situation pour s'enrichir aussi au détriment de ces soi-disant réfugiés. Mais je doute fort que ces gens-là soient des réfugiés. Hein. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une situation. Je ne sais pas si ce sont, ils sont tous aussi des Congolais, je ne sais pas. Quel que soit l'état où ils se trouvent là-bas.
Gaston, quand vous dites que vous doutez sur base des faits que vous avez des éléments ou bien sur base de cette analyse que vous livrez?
Non, mais moi, j'ai une fois aussi franchi la frontière Angola dans une situation irrégulière. Je sais la majorité des Congolais, parce que vous arrivez dans des villes. D'ailleurs, quand vous parlez des carrières en Angola, ce sont des Congolais qui sont là-bas. Aucun Congolais n'a un document. Ils travaillent avec des militaires là-bas, ils créent des diamants, des trucs comme ça, et les rebelles arrivent, ils sont tués en masse. Hein? Donc, c'est pour vous dire que la majorité, sans vous mentir, beaucoup se retrouvent là-bas parce qu'ils sont dans des frontières avec la complicité des Angolais, des militaires angolais. D'autres ont même utilisé ce qu'on appelle les chobres. Hein? Moi, je ne doute pas à l'avènement de Kamwana Nsapu, mais ce n'est pas l'avènement de Kamwana Nsapu qui va actualiser, soit qui va justifier cette patrie. Plusieurs fois, on a vu des refoulements des Congolais. Angola,
merci beaucoup Gaston. On va terminer avec vous, Félicien. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez eu le temps de suivre vraiment les uns et les autres. La question de la responsabilité interne se pose, la question du déplacement des populations, mais la question aussi de savoir si parmi les gens qu'on a expulsés, y a-t-il de réfugiés qui s'étaient réfugiés en Angola, fuyant les atrocités au Kasaï. Voilà autant de questions qui se posent. Enfin, pour terminer, quel est votre point de vue, Félicien?
Merci, Gérard. Bonjour à tous les auteurs de Radio Okapi. J'ai dit que on a dit tout ce qu'on devait dire, mais pour la plupart, on a parlé des effets et non pas des causes. Mais je cherche quelqu'un qui doit dire, doit parler aux Angolais pour leur dire que l'exode a commencé d'abord par eux. Ils sont venus en grand nombre dans notre pays quand ils avaient des problèmes de l'indépendance, quand ils avaient des problèmes de la guerre de Sabine. On leur envoie la vidéo de Mobutu et aux Nations Unies, comment ils défendaient l'intérêt des Angolais et comment nous, les Congolais ici, nous avons fait des prières et nous les avons accueillis comme nos frères pour qu'ils puissent avoir l'indépendance, qu'ils puissent vivre en paix chez eux. Et c'est ça que nous souhaitons pour toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, si le peuple congolais est dans cette situation, c'est le fait des Occidentaux et des multinationales, les multinationales, qui ont planifié que le Congo devait être déstabilisé et que les Congolais devaient perdre leur pays au profit de tout le monde. Vous avez entendu des voix se lever à gauche et à droite pour dire que nous avons beaucoup d'espace et que nous devons accepter les voisins pour qu'ils puissent aussi occuper l'espace chez nous. Mais la façon dont ils sont en train d'agir, c'est la façon de chercher à tuer les Congolais, à détruire les Congos, et pour qu'ils prennent l'espace au lieu de promouvoir une cohabitation entre les peuples.
Merci.
Et nous sommes africains, nous n'avons jamais eu de problème de vivre ensemble.
Mais aujourd'hui,
on veut vraiment à tout prix que les Congolais perdent leur pays. Et c'est ça la souffrance des Congolais qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de
tirer
ça et là.
Merci
et
beaucoup, Félicien.
Nous battre pour que les Occidentaux nous laissent un peu tranquilles. Mais tant que nous avons des collabos au Congo qui sont en train de soutenir l'occupation du Congo, la misère du peuple congolais.
Merci beaucoup, Félicien. Merci beaucoup, Félicien. Merci à tous les auditeurs. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par J.R. Lungembo. Pierrot et la Mégie vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Et surtout, cette émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.